بسم الله الرحمن الرحيم.
والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم.
إن هذه الآية الكريمة هي الأساس الذي ينبغي لكل مسلم أن ينطلق منها لمعرفة الدعوة التي اصطلح بعض العلماء قديما وحديثا على تسميتها بالدعوة السلفية.
الدعوة السلفية.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد. Les éditions d'Arwa.com vous présentent la série de cours intitulée
L'importance du Tawhid en Islam
du frère Samir. Cours numéro 3. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
On avait expliqué ce que voulait dire le mot Tawhid. On avait expliqué ce que le mot Aqida voulait dire. Que Al-Sunnah et le Jama'a, qu'est-ce qu'il voulait dire? On avait vu Al-Hadith, Al-Athar, qu'est-ce que cela voulait dire? On avait vu que Minhaj, Kalimat Minhaj, le mot Minhaj voulait dire. Ce sont des mots qu'on rencontre souvent dans notre lexique et que les ulama utilisent dans leurs livres ainsi que leurs cassettes. On avait donc vu tout ça. La semaine dernière, on a expliqué. On a commenté le hadith de Anas radiallahu anhu où il nous rapporte que le prophète alayhi salatu wasalam a recommandé à Mu'ad qu'il a envoyé au Yémen comment commencer sa da'wa. On ne fait pas da'wa n'importe comment. La da'wa, elle repose sur des piliers. Elle repose avec des conditions. On ne vient pas et on dit tiens, on va faire da'wa parce que ma tête elle m'a dit de faire da'wa. Non. Kam min muridin lil khair la yudrikuh ou la yusibuh. Combien de gens qui veulent le bien mais ne l'atteignent pas? Combien? C'est comme les gens qui se divisent en deux. Il y a des gens qui peuvent être heureux mais ne le sont pas. Des gens qui peuvent être heureux et ne le sont pas. Et il y a des gens qui cherchent le bonheur sans jamais le trouver. Subhanallah. Non, la da'wa, on ne vient pas faire da'wa n'importe comment. Il y a des piliers, il y a des conditions pour mettre la da'wa en route. Le prophète, alayhi salatu wasalam, on a vu comment il a recommandé à Mu'ad de faire da'wa au Yémen. Il lui a dit attention, tu vas rencontrer des gens du livre. Donc ça veut dire quoi des gens du livre? Ce ne sont pas des gens qui sont bêtes en face de toi. Ce sont des gens qui sont lettrés, qui ont lu l'Injil, qui ont lu la Torah, qui ont lu l'Évangile, qui ont lu la Torah. Il faut faire attention. Toi tu viens et tout de suite tu vas commencer à faire da'wa. Tu ne feras pas da'wa en France comme tu feras da'wa dans un pays étranger. Tu ne feras pas de la même façon si tu es dans des pays du Maghreb comme quand tu es dans des pays d'Afrique noire. Tu ne feras pas da'wa si tu te retrouves en Chine ou bien en Russie. Il faut tenir compte de la société où tu te trouves, des mentalités. On ne dit pas qu'il faut faire des concessions, c'est pas ça que ça veut dire. On ne fait pas des concessions en religion. Mais il y a une approche à la da'wa qui doit être fait selon la recommandation du prophète, alayhi salatu wasalam. Le prophète, quand il a dit à Mu'ad, tu commences par Tawhid, il aurait très bien pu lui dire, alors que Mu'ad, radiallahu anhu, c'était un savant, il connaissait le Qur'an, il connaissait l'ahkam, il connaissait les règles de la jurisprudence, il connaissait tafsir, il connaissait sa'aqida. Subhanallah. Pourquoi il lui a conseillé de commencer par Tawhid? parce que c'est la première des choses par laquelle il faut commencer quand tu fais da'wah. Dans n'importe quel domaine, tu commences par le début. Un jardinier te dira que quand tu veux, par exemple, commencer par faire pousser des haricots, je te donne un exemple comme ça, hein. Tu mets ton haricot dans du coton, tu attends qu'elle fait des petites racines, après tu la mets dans de la terre, après tu l'arroses une fois sur trois ou sur quatre, après une fois qu'elle pousse, tu mets un petit peu d'engrais, et après une fois qu'elle pousse et qu'elle se tord, tu mets une branche, tu l'attaques. Voilà, c'est ça. C'est pas directement tu mets ta graine dans le sable, etc., dans la terre et tout. Non. Il va te dire. Alors ici, c'est une question de religion. C'est une question d'enfer et de paradis. On voit tous ceux qui ont essayé de faire da'wah en dehors de la recommandation du prophète, alayhi salatu wassalam, ils se sont égarés. Pourquoi aujourd'hui les musulmans, ils sont mal vus dans le monde entier? Parce qu'il y a des groupes de gens qui ont fait da'wah mais n'ont pas fait da'wah correctement comme le prophète alayhi salatu wassalam l'a enseigné à Mu'ad. Aujourd'hui tu portes un qamis, tu portes une barbe, nos sœurs qui portent le niqab, barakallahu fihunna, masha'Allah, elles sont visées du doigt. Elles sont visées, les frères ils sont visés. Pourquoi maintenant ils font des amalgames partout? Subhanallah. Quelqu'un qui est, il est innocent de ces groupes, il est innocent de ces idées, ils le mettent dans le même sac. Et ils ont raison d'avoir peur. C'est normal, ils ont raison d'avoir peur. Ils ont raison. Pourquoi? Est-ce qu'on a donné réellement le vrai visage de l'islam? On ne l'a pas donné, pourquoi? Parce que Faqid ou Shay l'a yurté. Celui qui ne possède pas ne peut pas donner. Qu'est-ce que tu veux donner alors que tu ne possèdes même pas toi-même? Et après, quand tu parles avec certaines catégories de personnes, qu'est-ce qu'ils vont te dire? Ils vont te dire, ouais, mais nous, on passe notre temps à rester assis, à se regarder dans les yeux et après à étudier des livres. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tout le monde sait. Tout le monde sait quand tu lui parles de n'importe quel verset ou n'importe quel hadith ou bien un attribut d'Allah subhanahu wa ta'ala. On sait que, par exemple, Inna Allah ala l'arshi istawa, et on le sait, ça, il faut nous donner du nouveau. Non, tu ne le sais pas, mon frère. Tu ne le sais pas. Tu sais pas toutes les choubouettes qui peuvent sortir de ce verset. Si tu ne le comprends pas comme les pieux prédécesseurs, ils ont compris le Coran et la Sunna. Tu ne le sais pas. Est-ce que tu t'es assis devant un shir, devant un alim qui t'a enseigné ta aqida? À me dire, moi j'ai pas besoin, je comprends les textes tout seul. Eh, tu comprends les textes tout seul. Masha'Allah, c'est le safa. Tu connais le safa, la philosophie, oui. Ou bien des fois, tu as des gens qui te disent, oui, mais vous, vous parlez que du tawhid, du tawhid, du tawhid. Le tawhid, ça prend 10 minutes. Masha'Allah. Alors lui, maintenant, il est mieux que le prophète, alayhi salatu wassalam. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a enseigné le tawhid 13 ans à Mecca. Combien? 13 ans à Mecca. Avant de leur enseigner la jurisprudence. Le tawhid. Il était derrière eux. Tawhid, 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 aqida, tawhid, tawhid, aqida. Pendant 13 ans. C'est vrai que ce qu'il veut dire lui en disant que oui, mais le tawhid ça prend 10 minutes. Peut-être le fait de mentionner, si tu lui poses la question, ma wa tawhid, il dit que tawhid par exemple, c'est un tawhid Allah fi rububiyatihi, wa fi uluhiyatihi, wa fi asma'ihi wa sifatihi. Combien j'ai mis de temps? J'ai mis une minute pour expliquer ça. Voilà. Ça, voilà, je vous ai expliqué c'est quoi tawhid dans une phrase. Mais est-ce que ça veut dire que je vous ai expliqué vraiment c'est quoi tawhid? Est-ce qu'il y a une science plus importante que le tawhid? Il n'y a pas de science plus importante que le tawhid. Il y a des gens qui la ilma lahu yatakallamu bi kalamin khatir. Il y a des gens, ils n'ont pas de science et quand ils parlent, ils sont plus dangereux que s'ils se taisent. Ils vont te critiquer parmi des les musulmans, je ne parle pas des koufars, les koufars bayn al-amr. On sait, les koufars, il n'y a pas de problème avec eux. C'est parmi les musulmans, au sein de la communauté. Ils vont te dire des choses, des gravités, sur des gens qui ne connaissent même pas, qui n'ont jamais écouté, qui n'ont jamais lu leur livre, parce que ceux qui n'ont jamais écouté, c'est normal, ils sont morts. Rahimahumullah, comme par exemple, je te donne un exemple, Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, rahimahullah. Il y a des gens aujourd'hui, à l'époque où nous vivons, ils vont critiquer le travail de Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah. Tu critiques une personne que tu ne connais même pas. Elle dit wahda. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est que tu n'as pas ouvert ses livres. Est-ce que tu as ouvert le livre de Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah? Il va te dire, j'ai ouvert une fois un livre et je suis tombé sur un passage qui était bizarre et qu'il y avait du kufr dedans. Tayyib naqulu li hada, on dit à celui qui parle comme ça, hal kullu ma yaktabu Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah yubayyinu aqidatah? Est-ce que tout ce que Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah il a écrit, ça veut dire que ça c'est sa aqida? Est-ce que ça veut dire que ça c'est son minhaj? Et c'est valable pour nos ulama contemporains d'aujourd'hui, tels que Cheikh Ibn Baz, rahimahullah, ou la Cheikh Al-Uthaymin, ou la Cheikh Al-Albani, ou la Cheikh Muqbil, ou la Cheikh Rabi'. C'est la même chose aujourd'hui. Il y a des gens qui vont te critiquer les savants. Ils n'ont jamais eu l'occasion d'écouter une cassette, ils n'ont jamais eu l'occasion de lire leurs livres, et ils n'ont jamais eu l'occasion de les rencontrer. Et comment tu critiques quelqu'un que tu ne connais même pas? Mais c'est normal, il y a une règle qui dit, c'est celui qui ne fait rien qui n'est pas critiqué. Celui qui ne fait pas, il ne peut pas être critiqué. Celui qui n'ouvre pas sa bouche, il ne peut pas être critiqué. C'est celui qui travaille qui est critiqué. Mais on vous a expliqué que la critique, elle se divise en deux. Il y a une critique positive et une critique négative. Si moi c'était une critique positive, بِدَلِلِ قَوْلِهِ تَعَالَى وَتَعَوَّنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى, de s'entraider mutuellement à la piété, là il n'y a pas de problème. Mais non, toi en face, tu fais quoi? Tu fais une critique négative, tu casses le travail. Tu casses le travail. Pourquoi? Parce que tu n'as pas de science. Tu n'as pas été éduqué. Tu n'as pas pris des coups de bâton sur le dos. Si tu avais pris des coups de bâton sur le dos, tu aurais vu que c'est pas comme ça qu'on parle devant un alim. Allah subhanahu wa ta'ala, il les a élevés en degré. On n'est pas pareil. Les gens se divisent en deux. Allah subhanahu wa ta'ala yaqul wa dhakkir la verset fas'alu ahla adh-dhikri in kuntum la ta'lamun. Les gens, ou tu es un savant et tu enseignes, ou tu es un ignorant et tu apprends. Amma anta alimun fatu'allim, amma anta jahilun fatu'allam. C'est tout. Si tu es un savant, c'est toi qui vas enseigner. Si tu es un ignorant, c'est toi qui apprends. Et la plupart de nous, on n'est pas des savants. La plupart, on est des ignorants. Donc, il faut qu'on apprenne. Et on commence par quoi? Par at-tawhid. Connaître son Seigneur. Tu apprends à connaître ton Seigneur. Si tu ne connais pas Allah subhanahu wa ta'ala, tu ne peux pas l'adorer correctement. Et aujourd'hui, beaucoup de gens, ils te disent, oui, mais moi j'adore Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord, tu adores Allah comment? Comme tu as vu ton père faire et ton grand-père faire et ton arrière-grand-père faire? C'est comme ça qu'il faut apprendre à connaître Allah. Il va te dire oui, parce qu'eux, ils étaient sur le chemin des pieux prédécesseurs. Alhamdoulilah, c'est ce qu'on veut. Oui, d'accord. S'ils suivaient le chemin des pieux prédécesseurs, il n'y a pas de problème. Mais s'ils ne suivaient pas le chemin des pieux prédécesseurs, là, il est le problème. Et il se peut qu'il y ait des choses au cours du temps qu'on va découvrir. On va dire, mais attends, ça c'est bizarre et tout. C'est bizarre, c'est normal, parce qu'on ne connaît pas. Donc pour nous, ça nous paraît bizarre. Ou des choses qui ne sont pas censées. Mais din, il avance pas avec la raison. Surtout tout ce qui est du domaine de la aqida, de la croyance. Il y a des choses qu'on t'ordonne de faire. Quand je dis on t'ordonne, Allah subhanahu wa ta'ala t'ordonne de faire, attention. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui nous demande de nous soumettre à lui d'une soumission totale. Subhanallah. Regarde la plupart des grands savants. Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahmallah, on revient à lui, il a combattu le soufisme. Il a combattu le soufisme et le shirk qui est dans le soufisme durant toute sa vie. Il a été emprisonné, il a été maltraité. Mais quand le gouvernement de cette époque, il avait besoin de lui pour faire chauffer les foules, pour aller faire le combat contre les Tatars, il le sortait de la prison. Il disait, Cheikh, fais chauffer les foules s'il te plaît pour les envoyer. Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, il l'a fait. Il est sorti, il a fait des prêches, il a fait chauffer les foules, ils sont partis faire la guerre contre les Tatars. Il aurait très bien pu dire, oh les gens là, soulevez-vous contre votre gouvernant, allez, et on fait un renforcement de pouvoir. Voilà qu'il l'a. Pourquoi il ne l'a pas fait? Parce qu'il suivait le chemin du prophète, alayhi salatu wa salam. Une fois qu'il terminait sa khutbah ou bien son prêche, il le remettait en prison. Normal.
et s'inquiétait pas pour ça. Lui, tu rentres en prison, sa maktaba est avec lui, sa bibliothèque est avec lui. Et s'il devait être exilé du pays, c'est pas grave. Touriste, il va faire da'wa dans les autres pays. Et puis si jamais on devait le tuer, ben c'est pas grave. Marjoulahu shahada, le martyr. Donc tu vois, il ne faut pas s'inquiéter pour ces choses-là. La dunya, elle passe pour tout le monde. Alors mourir avec Allah, c'est préférable que de rester vivant avec Shaitan. Mais bon, si tu peux vivre avec Allah dans la dunya plus dans l'akhirah, masha'Allah. Vous savez où ça qu'il est mort, Cheikh Nassim Ibn Tiyar? Il est mort en prison. Et les soufis, tellement qu'ils avaient les nerfs contre lui, ils avaient la rage, ils avaient la haine. Il l'a enterré dans Maqbarat al-Soufiya, qui se trouve à Damas. Maqbarat al-Soufiya, elle s'appelle comme ça là. Cimetière des soufis. Ah, tu nous as combattus, tu vas être enterré parmi nous. Allah al-Musta'an. Et jusqu'à aujourd'hui, il y a des soufis qui rigolent. Ils disent, ah, regarde, il nous a combattus, mais il est enterré dans notre cimetière. Hier, une tombe, c'est une tombe, mon frère. Si tu trouves le bien dans ta tombe, dis Alhamdulillah. Si tu trouves autre chose, tu t'en prends qu'à toi-même. Que tu sois aussi là que tu sois à Mecca. Subhanallah. Pourquoi cette haine entre musulmans? Mais de toute manière, ça c'est un combat qu'on va mener jusqu'au jour de la fin des temps. Hein. C'est un combat qui est jusqu'à la fin des temps. Il ne faut pas croire parce que nous on fait quelques petits dorous comme ça, ou bien même les grands ulama font des grands dorous, que ça va changer le monde. Ma communauté va se diviser, tous iront en enfer excepté une. Sadaqa Rasulullah, sallam. Tu ne vas pas venir toi changer ce que le prophète sallam, il a dit. Mais pourquoi ils sont en enfer? Parce qu'ils n'étaient pas gentils avec leurs voisins? Non. Parce qu'ils avaient khalal wa zalal fi tawhid. Ils avaient des erreurs de l'aqida, dans la croyance, dans le tawhid. D'où l'importance d'étudier le tawhid. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de groupes qui assimilent et qui revendiquent être dans le droit chemin. Et ils font ce qu'on fait. Ils donnent des cours aussi. Tu crois qu'ils ne donnent pas des cours? Et des fois, ils utilisent le même lexique que nous utilisons. C'est pour ça que des fois, ça peut porter à confusion. Quand on regarde l'article qui a été écrit dans Le Monde il y a une semaine, en bas cet article-là, c'est normal qu'ils ont peur, ils disent. Ils ont peur, et je les comprends. Ils ont mélangé tout. C'est normal quand tu es un takfiri. Quand tu es un takfir devant toi, il va te dire qala Allah, qala Rasul, sallallahu alayhi wa sallam. Mais il va te dire ce qu'il veut bien te faire entendre. Mais dès que tu vas rentrer dans des chapitres où il faut maintenant se soumettre, ah là, il ne veut pas, il n'écoute pas. Il n'écoute pas. Et après, il va te trouver des excuses. Alors, si nos ulama ont été cartonnés, tu crois que nous, les tout petits, là, qu'on n'est rien du tout devant eux, tu crois qu'on va pas être cartonnés? Men ana wa men anta, t'es qui toi? Moi, je suis qui, moi? Mais nous, قلنا لا نتعصب للشيوخ. Nous, on ne s'entête pas sur les chouyour. On s'entête sur quoi? Sur le haq, sur la vérité. Allah subhanahu wa ta'ala yaqul wa qul al-haq min rabbikum faman sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur. Et dis-leur, ya Rasulallah, qul lahum, que la vérité émane de votre Seigneur, que celui qui veut, qu'il croit, et que celui qui ne veut pas, qu'il mécroit. Ça s'arrête là. Celui qui veut, qu'il croit. Que celui qui ne veut pas, il ne croit pas. Et on les a vus. Ceux qui sortent du minhaj des pieux prédécesseurs, ils font plus de dégâts qu'autre chose. Pourquoi vous croyez qu'on est mal vu aujourd'hui dans le monde musulman? À cause de ceux qui suivaient le chemin des pieux prédécesseurs? Non, à cause de ceux qui ont dévié du chemin des pieux prédécesseurs. Et ces gens qui ont fait cette da'wa, ils n'ont pas étudié. Si vous avez étudié, ben vous vous apercevrez qu'ils ne seraient pas sortis du chemin des pieux prédécesseurs. Ils prétendent suivre l'imam Ahmed ibn Hanbal. Tu le suis dans quoi? Dans sa aqida, dans son manhaj, dans quoi tu le suis? Tu le suis, mais juste au moment où, par exemple, lui, il a été emprisonné, et à son époque, où le khalifa de cette époque, il a dit que le Coran est créé, que c'est le kalam qui s'est créé. Qu'est-ce qu'il leur a dit, l'imam Ahmed ibn Hanbal, quand ces grands ulamas sont venus de toutes parts, et ils ont dit... يا شيخ يا إمام alors que هو كان إمام سنة في زمانه. Qu'est-ce qu'on a à répondre de ça? Regarde, le calife, il dit que le Coran, il est créé. Alors que nous, on sait que Kalamullah est makhlouq. On sait que la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas créée. Wa naqulu fi sifat, ma naqulu fi dhat. Comme on dit pour l'essence d'Allah subhanahu wa ta'ala, on dit pour les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa la nukayyifuha. Et on ne donne pas de comment aux attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme on ne donne pas de comment à l'essence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors ils sont venus, ils ont dit, ya Cheikh, ya Imam, regarde ce que le calife dit, il dit que le Coran il est créé, ça c'est un problème, et ceci, cela, il faut sortir de l'obéissance du calife, il faut le renverser, ceci, cela. Il dit, non, wallo, ma cache. Wa in ukhidha malak, wa in duriba dhahrak. Même si on te prend toutes tes richesses, même si on te frappe, même si on t'emprisonne, tu ne sors pas de l'obéissance de ton gouvernement. Hal kafara man qala bi anna al-Qur'an makhluq. C'est ça qu'il faut voir. Est-ce que celui qui dit que le Coran il est créé, c'est un kafir ou pas? Hal kullu ma yaqulu al-kafir la na'khudhu kalamahu? Est-ce que tout ce que le mécréant dit, c'est faux et qu'on ne doit pas prendre de lui? Je vais vous donner la réponse, non. On peut prendre du kafir. Tout ce qu'il dit n'est pas faux. Sharit سلسلة الهدى والنور للشيخ الألباني رقم 568 كاسات الشيخ الألباني de la سلسلة هدى والنور كاسات 568 pour celui qui veut écouter ce que je viens de dire. Je vous ai dit ça en une phrase, hein. Mais الشيخ الألباني رحمه الله il le détaille en plus long. Ça c'est un kafir. Alors qu'est-ce qu'on doit dire de ton frère qui est musulman pratiquant? Je parle pas du mubtadi'. Je vais aller encore plus loin. Je parle de ton frère qui suit le même chemin que toi. Un da'i par exemple. Un da'i par exemple. Qui dit quelque chose. Ou il se trompe. Tout de suite on va le cartonner. Tout de suite on va l'allumer. Si tu veux prendre du kafir. Une chose qui ne va pas à l'encontre du Coran et de la Sunna. Ton frère qui est musulman. Qui est un da'i, un missionnaire, un prêcheur. Qui a de la science que toi tu n'as pas. Et il peut t'en faire profiter. Il fait une erreur. Il n'y a pas quelqu'un qui est préservé de l'erreur, comme on l'a dit. Celui qui est préservé, c'est celui qu'Allah a préservé. Et à part les prophètes et les livres, il n'y a rien qui est préservé. Personne n'est préservé. On fait tous des petites ou des grandes ou des moyennes erreurs. Alors ton frère, il vient, il te fait un vase et tout ça. Et puis après, quand tu vois que tu n'es pas d'accord avec lui, tu vas l'allumer, tu vas le critiquer. Et tu peux même enregistrer des cassettes ou des livres. Et tu dis sur lui comme ça, comme ça, comme ça. Voilà, il est comment, il est comment, il est comment. Et celui qui critique, c'est pas un savant pour le critiquer. Je ne parle pas des savants qui font leur travail. Il y a des savants qui sont là, qui font un travail. Je parle surtout des petits comme nous, qui on n'a pas attendu le travail des savants, on commence à cartonner tout le monde. Hier, il était ma'asha'Allah, ma'asha'Allah. Et aujourd'hui, ada la ya'rifu shay'a. Il ne connaît rien à lui. Et il commence à être cartonné. La, akhi. La. Ta'addab. Hal hada min adab al-salaf? Est-ce que ça fait partie du bon comportement des plus prédécesseurs? Ça ne fait pas partie du bon comportement des plus prédécesseurs. Est-ce que tu es à l'auteur de pouvoir critiquer telle personne ou telle personne? La critique. Al-jarh. Est-ce que tu es à l'auteur? Hal ta'rifu an-nasikh min al-mansukh? Est-ce que tu connais le nasikh al-mansukh? Est-ce que tu connais ayat al-ahkam? Les versets où il y a des hukum, des règles qui en découlent? Est-ce que tu connais les hadiths qui en découlent? Fa idha jahilta kalama shaykhin ma fakil عِلْمَهُ إِلَىٰ عَالِمِهِ. C'est une règle. Une règle de usul. Que si toi tu ignores une chose que un tel a dit ou a écrit dans un livre, alors ramène cette science que toi tu as ignorée à celui qui l'a dit. هَلْ سَأَلْتَهُ هَلْ اِتَّصَلْتَ بِهِ. Est-ce que tu lui as posé la question? Est-ce que tu as fait en sorte de le rencontrer pour pouvoir dire ce qu'il est critiqué sans que tu aies su ce qu'il a voulu dire? Le manque de science, les frères. Quand tu manques de science, tu as un manque de science, tu ne connais pas ton Seigneur, tu ne connais pas ton prophète, tu ne connais pas l'autre comportement que tu dois avoir, ni avec toi-même. Avec toi-même, tu ne sais même pas comment tu dois te comporter toi-même. Ni avec ta femme, ni avec tes enfants, ni avec ton père, ni avec ta mère, ni avec tes voisins, ni à la mosquée, ni dans ton travail, ni dans la rue, ni à la boulangerie, ni chez l'épicier, ni rien du tout. L'islam nous a appris toutes ces choses-là. du comportement qu'on doit avoir. Est-ce qu'on a un comportement exemplaire? Illa min rahimallahu minna. Un sourire sur le visage de ton frère, ça coûte quoi? Ça coûte rien du tout. Mais ça peut déconstiper celui qui est en face de toi. Il y en a mon frère. Un sourire, ça coûte quoi? Ça coûte rien du tout. Et ça peut rapporter gros. Beaucoup de hasanat. Un sourire sur le visage de ton frère. Masha'Allah. Hana là, ton frère il te regarde, tu le dévisages de haut en bas. Comme si c'était un martien. Je ne sais pas d'où il vient. Allah al-Musta'an. Là, pourquoi? Parce que justement, on ne connaît pas notre Seigneur. On a vu dans le maintes durus qu'on a fait jusqu'à présent que Allah subhanahu wa ta'ala yu'allimuna wa yurabbina. Il nous enseigne et nous éduque Allah subhanahu wa ta'ala à nos devoirs d'étudier le Coran. Quand on était en train de parler de la vision d'Allah subhanahu wa ta'ala et que Moussa a demandé à Allah subhanahu wa ta'ala de se faire voir à lui, est-ce que Allah il a dit attention Moussa, qu'est-ce que tu as dit, c'est de la mécréance? Et il s'est énervé contre Moussa et il l'a blâmé. Il a dit non. Tu ne me verras pas. Voilà. Coupe court. Tu ne me verras pas. Et il lui a donné après l'enseignement qu'il fallait pour. Mais est-ce que Moussa il a fait du coup faute de la mécréance? Il n'a pas fait de la mécréance. Il a demandé déjà une chose possible à Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'a pas demandé une chose qui était impossible. Et je vais vous donner moi une chose impossible. Par exemple, tu prends le nombre 59. 59, ça fait 5 et 9. Qu'est-ce que tu peux faire comme autre nombre avec 59? Tu peux faire 95. Si tu inverses les lettres. 9 et 5, 5 et 9, ou 59 ou 95, est-ce qu'on peut faire autre chose après avec ces deux lettres? Ça, ce sont des choses impossibles. Allah subhanahu wa ta'ala ala kulli shay'in qadir. Allah il est capable de faire toutes choses, mais on ne pose pas des choses que Allah subhanahu wa ta'ala a déjà légiférées. Allah subhanahu wa ta'ala il a légiféré certaines lois. Il ne faut pas qu'on sorte. Il ne faut pas qu'on pose des questions. La nata'adda fi ad-du'a. On ne pose pas des questions qui ne nous sont pas demandées. On ne demande pas des questions pour pouvoir prouver, se prouver la capacité ou la puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Là. Parce que si tu fais ça, ça veut dire que tu as des doutes sur Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit « Ala kulli shay'in qadir ». Kul, c'est-à-dire toute chose. Allah est capable de toute chose. Même ce que toi, tu peux te poser comme question, tu te dis « Est-ce qu'Allah est capable de faire ça ?» Oui, il est capable de faire ça. Mais ne le fera pas pour tes beaux yeux. Parce qu'il y a des choses qu'on ne demande pas à Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a des choses qui peuvent être demandées à Allah subhanahu wa ta'ala. Mais justement, des fois, il y a des frères, hadahum Allah ila sawa al-sabil, ils font du'a et disent Allahumma hadi jami'a an-nas. Oh Allah, guide toute l'humanité. On ne peut pas faire ce genre de du'a là. On ne peut pas faire ce genre de du'a. Parce que le jami'a, ils ne peuvent pas rentrer tous au paradis. Fariqun fil jannah wa fariqun fil sa'ir. Subhanallah. Il y aura une partie au paradis, une partie en enfer. Donc pourquoi toi tu viens demander à Allah, ya Allah guide toute l'humanité? C'est pas possible. Ce que tu peux faire comme ça, tu peux demander à Allah, oh Allah guide le maximum. Tu ne donnes pas de nombre bien déterminé. Tu ne limites pas. Mais ça, pourquoi des fois on fait des du'as comme ça, ou on fait des choses qui ne sont pas dans la religion? Pourquoi? Parce qu'on ne connaît pas notre Seigneur. Une autre chose, tant que vous n'avez pas de base, surtout dans le tawhid, ne rentrez pas dans des conversations de tawhid avec autrui. Attention, vous avez des gens, c'est des professionnels. C'est quoi? C'est des professionnels de l'égarement. Ils sont égarés et ils égarent autrui. Comme ils ne veulent pas rester égarés tout seuls, ils veulent égarer les autres. Je te donne un exemple. Regarde les témoins de Jéhovah. Les témoins de Jéhovah, ce sont des gens qui sont égarés. Ils sont à l'ouest. Ils savent qu'ils le sont. Mais ils veulent toujours égarer autrui avec eux. Mais parmi les musulmans, il y en a qui sont égarés. Et ils veulent rester égarés. Et ils jurent par Allah de rester tout seul, même si, si personne ne les suit. On en a rencontré des gens comme ça. Wallah, je te jure, je reste tout seul, même si je dois rentrer en enfer. A'udhu billah. A'udhu billah. Qu'Allah nous préserve de l'égarement. Subhanallah. Pourquoi? Parce qu'il croit être dans la vérité. Il croit être dans la vérité. Mais avec quoi tu as jugé? Bimada ma yastabayna al-haqq wal-batil. Avec quoi tu as pu juger entre le bien et entre le mal, entre le vrai et entre le faux? Il se peut que toi tu sois dans le faux en croyant que tu es dans le bien. Est-ce que tu as posé des questions? Ou tu t'es cru assez intelligent pour pouvoir croire que tu étais dans le vrai? فَإِنَّ التَّوْحِيدِ أَوَلُ وَاجِبٍ عَلَى الْمُكَلَّفِينَ. La première des choses avant de parler de Zahid et de Ba'id, c'est التَّوْحِيدِ. Avant de parler de quoi que ce soit, avant de parler de n'importe quelle conversation, n'importe quel sujet, c'est le tawhid. C'est la chose obligatoire pour toute personne responsable. Mukallaf. Le mukallaf, man huwa? Wa sahih, c'est celui qui est en bonne santé. Wa huwa al-aqil, c'est celui qui a toute sa conscience, ou sa raison. Wa huwa al-baligh, celui qui est pubère. Wa huwa al-muslim, laysa bil-kafir, et c'est celui qui est croyant, musulman, qui n'est pas mécréant. Pour lui, il est obligatoire pour lui de connaître le tawhid. Quelqu'un qui est fou, un majnoun par exemple, on ne lui dira pas d'apprendre le tawhid. On lui dira que quand il guérira. Pour un jeune de 7, 8, 9 ans qui n'est pas encore pubère, on ne lui dira pas. Pour lui, ce n'est pas une obligation. Pour quelqu'un qui est malade aqliyan, ça revient au même aussi. On ne lui dira pas d'apprendre. Ou le kafir, tant qu'il n'est pas musulman, on le prêche, bien sûr, on le prêche, c'est un devoir. On le prêche. Mais pour lui, s'il n'est pas musulman, il n'est pas obligé d'apprendre le tawhid. Regarde comment les ulama ils parlent quand ils te conseillent. Et ça, on le retrouve beaucoup dans les livres de Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab. Lui, la plupart de ses livres, quand il commence, c'est toujours I'lam, sache que Allah te fasse miséricorde. Alors, il t'enseigne, en plus de ça, il te fait des du'as. Subhanallah. Et après, il y a des ignorants, ils viennent et critiquent les ulama. Allah al-musta'an. I'lam rahimakallahu ta'ala. أن أول واجب على المكلف هو توحيد الله عز وجل. La première des choses avant de rentrer dans des discussions stériles et futiles, لا فائدة منها وفيها. Tu vas prendre pendant 2 heures, 3 heures, 4 heures une discussion, et puis en vérité, résultat à la fin, tu n'as rien appris. Tu t'es pas rapproché de ton Seigneur, tu t'es pas éloigné de l'enfer, tu as perdu ton temps pendant 2 heures et 3 heures, tu serais resté assis en train de prendre le Coran et en train de le lire, ça aurait été mieux pour toi. Tu lis une lettre du Coran, elle est multipliée par 10. Une lettre. Bit de Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Déjà, tu as 10 hasanat. C'est préférable à toi que de prendre des conversations où l'ulama, les grands, ils ne veulent pas rentrer parce que avant de répondre à certaines questions, ils préfèrent chercher. Et ça met du temps. C'est pas du jour au lendemain. Tu crois que tu poses une question, tu vas avoir la réponse tout de suite? Des fois, il y a des questions qui demandent du temps, des recherches et tout ça. Parce que tout ce que tu dis, tu en répondras devant Allah, ya Habibi. Devant Allah, subhanahu wa ta'ala, il ne te lâchera pas. Tout ce que tu as dit, tout ce que tu as fait, pourquoi tu as dit telle chose? Pourquoi tu as fait telle chose? On ne fait pas les choses aveuglément. On ne dit pas parce que j'ai vu un tel faire. Non, tahaqqaq. Al-ibada. Attention, l'adoration c'est avec des textes à l'appui. On n'adore pas Allah subhanahu wa ta'ala comme ça. On adore Allah subhanahu wa ta'ala avec le Qur'an, avec le Sunnah. Est-ce qu'il y a un texte à l'appui ou pas? S'il y a un texte à l'appui, oui, j'adore mon Seigneur. S'il n'y a pas de texte à l'appui, non. Tawhid Allah Azza wa Jal. Tawhid, on avait expliqué, mais on revient un petit peu, ça fait pas de mal. Tawhid, quand on parle de Tawhid, il faut toujours préciser fi haqq Allah, parce que tawhid il peut être compris fi haqq Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, fi haqq al-ittiba', non, fi haqq Allah. Allah subhanahu wa ta'ala il a des droits sur nous, c'est de le reconnaître. Donc dans tawhid al-rububiyya, l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala dans la seigneurie, elle comprend quoi? Annahu al-khaliq, c'est lui le créateur. أنه الملك في ملكه سبي لو روا دان سون رويوم هو المدبر يفعل ما يشاء يسأل ولا يسأل il fait ce qu'il veut à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est lui qui légifère les lois, c'est lui qui pose des questions et aucune question ne lui est posée. On avait cité un exemple, toi devant un savant tu ne peux pas lever ta tête, devant Allah subhanahu wa ta'ala tu veux lever ta tête, tu veux parler avec lui comme ça. Attention, Allah est ton créateur. il faut le reconnaître donc dans Tawhid al-Rububiyya. Si tu connais maintenant ton Seigneur dans Tawhid al-Rububiyya, tu dois lui vouer soumission totale, tu dois l'adorer uniquement. Et là vient le deuxième Tawhid, qui en vérité c'est un seul Tawhid mais qui se complète, c'est Tawhid al-Uluhiyya, l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala dans l'adoration. Parce qu'il faut savoir une chose, c'est que les mouchriquins de Quraysh, ils reconnaissaient Allah subhanahu wa ta'ala en tant que Seigneur, en tant que Créateur, en tant que Roi dans son royaume. Ça, ils le savaient. Quand tu leur posais la question, « Man khalaqakum ?»« Fayaqulun Allah ?»« Man alladhi khalaqa as-samawati wal-ard ?»« Allah !» Qui c'est qui a créé toutes ces choses-là ? C'est Allah. Qui c'est qui vous a créé vous-même ? C'est Allah, ils le savaient. Mais là où ils ne l'ont pas reconnu, c'est fi tawhidihi al-uluhiyyati wa fi tawhidihi li asma'ihi wa sifatihi. Là où ils ne l'ont pas reconnu, c'est dans l'unicité d'Allah, dans l'adoration. Ça veut dire quoi l'unicité d'Allah dans l'adoration ? Ça veut dire que tout ce que tu vas entreprendre en adoration, tu le feras uniquement pour Allah subhanahu wa ta'ala, sans rien lui associer. Quand tu pries pour Allah subhanahu wa ta'ala. Quand tu jeûnes pour Allah. Quand tu jures par Allah. Quand tu fais le tawaf à la Mecque, tu le fais pour Allah subhanahu wa ta'ala. Quand tu égorges, c'est pour Allah subhanahu wa ta'ala. Quand tu demandes, quand tu invoques, c'est pour Allah subhanahu wa ta'ala et pour personne d'autre. C'est que dans ton adoration, tu demanderas à personne autre que Allah. Tu ne demanderas pas à un djinn, un génie. Tu ne demanderas pas à un ange. Tu ne demanderas pas à un prophète. Tu ne demanderas pas à un saint dans sa tombe. Tu ne demanderas pas à un arbre. Tu ne demanderas pas à une vache. Tu ne demanderas pas à une pierre. Tu ne demanderas pas au ciel. Tu ne demanderas pas à la lune. Tu ne demanderas pas à la terre. Tu demanderas à qui ? À ceux qui a créé toutes ces choses-là, c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala. Et tawhid Allah subhanahu wa ta'ala fi asma'ihi wa sifati, c'est reconnaître Allah subhanahu wa ta'ala dans ses noms et dans ses attributs. Allah subhanahu wa ta'ala, il a des noms, il a des attributs, qu'il est unique dans ses attributs. Une personne peut être karim, peut être généreuse, mais la générosité d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah karim, elle est différente de la tienne. Nahnu qulna min aqidati ahli sunnati wal jama'a, parmi la croyance des pieux prédécesseurs de ahli sunnati wal jama'a, on ne donne pas de comment. Wala nu'attil, on ne rend pas les choses négatives dans le sens où on rejette. Wala nu'awwil, et on n'interprète pas. Wala nu'shabbih, et on ne donne pas de ressemblance à Allah subhanahu wa ta'ala. On n'interprète pas, surtout ta'wil, attention, il y en a beaucoup qui tombent dans le ta'wil. Sous prétexte qu'ils n'acceptent pas que Allah subhanahu wa ta'ala, il a tel attribut, ils vont l'interpréter en disant que non, cet attribut-là, c'est pas ça que ça veut dire telle chose ou telle chose ou telle chose. Je vous donne un exemple, vite fait. Il y a un hadith du prophète, alayhi salatu wasalam, qui dit que Allah subhanahu wa ta'ala, il descend le dernier tiers de la nuit. Il descend le dernier tiers de la nuit. Il descend. Et eux vont te dire, ah non, la descente et tout. Pourquoi ? Parce que eux, dans leur tête, et dans leur esprit limité, et dans leur compréhension limitée, ils vont voir la descente comme nous descendons, comme si on descendait les escaliers, ou d'un endroit du haut vers le bas, comme ça. Alors tout de suite, ils vont s'imaginer que Allah subhanahu wa ta'ala descend de la même façon. Allahu a'lam, walakin nahnu naqul yanzilu bima taliqu bi hadhihi sifa. On croit qu'Allah subhanahu wa ta'ala descend comme il se doit pour Allah subhanahu wa ta'ala. Nous, on est faibles pour comprendre ces choses-là. On dit qu'il descend, mais on ne dit pas comment il descend. Ah là, il descend pour la nuit, ça s'arrête là. Pourquoi ? Parce que le prophète, c'est comme ça qu'il nous a enseigné les choses. Et les compagnons, c'est comme ça qu'ils ont compris. Ils ont compris qu'il ne fallait pas rentrer dans le comment. Ils n'y sont pas rentrés. Pourquoi nous, on est meilleurs que pour rentrer dans le comment ? Alors, sous prétexte qu'on n'a pas compris ou on n'accepte pas, on va interpréter. Et qu'est-ce qu'on va dire ? On va dire, al-nuzul bima'na, yani awwilu hadhihi as-sifa wa naqulu bima'na ar-rahma. On va dire, non, comme ce n'est pas la descente, alors on va dire que c'est la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala qui descend. Ou hada, c'est faux. Et ça, c'est faux de dire ça. Parce que si tu amènes une chose pareille, il faut avoir un texte à l'appui. Hal qalaha Allah subhanahu wa ta'ala ? Hal qalaha Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ? Hal qalaha ahadu sahaba ? Est-ce que Allah, il a dit dans le Coran que nuzul, ça voulait dire la descente de la rahma ? Est-ce que le prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam, il a mentionné dans un hadith que la descente, c'est ce que ça voulait dire ? Est-ce que les compagnons, c'est ce qu'ils ont dit ? Non. وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ. La miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, elle est déjà là. Alors pourquoi on va interpréter une chose par une chose qui est déjà présente ? Alors ils vont te dire, oui mais attends, vous ne comprenez pas, vous ne comprenez pas. Moi je ne t'ai pas. C'est ce qu'il va dire. Mais la miséricorde qui descend là, c'est une miséricorde spécifique, bien précise. Et voilà, ils sont rentrés dans une autre porte. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas accepté les textes. Non. Les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, on les donne, on les comprend, on y croit comme elles ont été révélées. اعلم رحمك الله تعالى ان اول واجب على المكلف هو توحيد الله عز وجل فتوحيد الله تعالى هو اصل الدين الذي لا يقبل الله من الاولين والاخرين دينا سواه et en plus de ça c'est tellement une chose très très importante c'est la base de la religion le tawhid c'est la base de la religion الذي لا يقبل الله من الاولين que Allah سبحانه وتعالى n'accepte pas ni des premiers ni des derniers din siwa une autre religion que cette religion donc ce tawhid wa dalil qawl ta'ala inna ad-din 'inda Allah al-islam bimana al-istislam la soumission il n'y a pas d'autre religion excepté la religion de l'islam wa man yabtaghi ghayra al-islam dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin et celui qui accepte ou qui prend pour religion autre que l'islam autre que la soumission, alors il se verra le jour du jugement dernier parmi les perdants. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهلهم يوم القيامة ذلك هو الخسران المبين. De perdre sur terre, t'étais riche et puis t'as fait faillite, t'étais en bonne santé et puis un jour t'as fait un accident, t'es handicapé, ou t'as perdu ta femme, elle est morte, ou bien un de tes enfants, ou toi-même, ou l'Allah alam. Il ne faut pas avoir peur pour ces choses-là, il ne faut pas être triste pour ces choses-là. Ça, c'est des choses qui arrivent à tout le monde. Simplement, on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de ne pas nous éprouver sur ce qu'on ne pourra pas supporter. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de ne pas nous éprouver sur ce qu'on ne pourra pas supporter. Que si on doit être éprouvé sur des choses qu'on pourra supporter. Mais après ça, Jannah Habibi, c'est le paradis qui est devant toi. Mais le paradis, on ne le gagne pas gratuitement. Le paradis, il est dans la soumission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais la soumission d'Allah, attention, parce qu'il y a des gens qui sont soumis. Quand tu regardes l'histoire de Gandhi, par exemple, c'est pas une référence. C'est pas une référence. Hein. Nous, on se refère pas sur ces gens-là, ou bien la sœur Teresa. On se refère sur la vie d'Abu Bakr Siddiq, sur Omar ibn al-Khattab, sur Ali ibn Abi Talib, sur Abdullah ibn Mas'ud. C'est ces gens-là qu'on se réfère, sur le prophète, alayhi salatu wasalam. Mais la parenthèse que je voulais dire, est-ce qu'ils n'étaient pas soumis dans leur égarement? Ils étaient très soumis dans leur égarement. C'est ça que je veux dire. C'est qu'ils étaient soumis dans leur égarement. Ils étaient dans l'égarement, mais ils étaient soumis. Pour eux, ils avaient pour eux, c'était la vérité. Non. Nous, on ne veut pas être soumis à un égarement. On veut être soumis à la vérité. Inch'Allah, on va s'arrêter ici. On reprendra bi'idhnillah la semaine prochaine. Subhanakallah wa bihamdik. Nashhadu an la ilaha illa anta. Nastaghfiruka wa natubu ilayk.